Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Quel est l'état du monde ? Quelle perspective internationale se dessine depuis un an pour en assurer la sécurité ? Quelles sont les limites de la mondialisation ? La question semble aujourd'hui se poser concrètement. Avec nous aujourd'hui pour ce tour du monde, Thierry de Montbrial. Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Thierry de Montbrial, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1992. Vous assurez un enseignement à l'École polytechnique et au Conservatoire national des arts et métiers où vous occupez la chaire économie appliquée et relations internationales. Vous voyagez énormément. Vous êtes aussi directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et parmi la longue liste de vos publications pour les auditeurs, citons le dernier de vos livres, Il est nécessaire d'espérer pour entreprendre, penseur et bâtisseur, que vous avez publié aux éditions des Cirtes en 2006, qui montre un petit peu comment analyse, voyage et confrontation à la réalité nourrissent votre démarche. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de l'actualité internationale en ce début de l'année 2008, de ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an, puisque vous avez fondé l'IFRI en 1979 et chaque année, cet institut publie une revue de relations internationales. Et c'est un ouvrage collectif, un ouvrage très pratique, qui comprend des analyses évidemment sur des dossiers très complets, mais aussi qui offre des repères statistiques, chronologiques, cartographiques sur les questions mondiales, sur les questions sur les grandes aires géographiques, et qui couvre l'ensemble des problèmes mondiaux les plus brûlants, avec le but non pas d'imposer un point de vue, mais d'éclairer. Alors chaque numéro est accompagné d'une sorte d'introduction, qui est en quelque sorte votre synthèse sur les perspectives qui se dessinent chaque année au niveau des relations internationales. Y a-t-il cette année une innovation particulière d'un point de vue éditorial dans la formule du rapport Ramsès 2008 par rapport à l'an dernier où il y avait un thème unique sur l'Europe, bien qu'il y avait qui était accompagné de toute la série de repères concernant les différents États. Mais cette année, il n'y a pas de thème particulier. Oui.
D'abord, vous l'avez dit, mais enfin, je crois qu'il est bon de rappeler que l'ouvrage en question s'appelle Ramsès, et il s'agit donc bien de Ramsès 2008, publié par Juno. Le premier numéro, je crois, est sorti en 1982, peut-être même 81. Donc, ça fait déjà une belle tranche d'histoire contemporaine qui est ainsi
couverte. C'est le 26e numéro, je crois.
C'est le 26e numéro. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Ramsès, qui a beaucoup de lecteurs fidèles, il y a beaucoup d'un lectorat qui nous est extrêmement fidèle, qui est composé d'étudiants, de professeurs, mais également des personnes qui sont dans le monde de l'action, que ce soit dans les administrations, dans les milieux économiques, etc., etc. Alors, ce Ramsès, il a évidemment pas mal évolué depuis le début, parce que plus d'un quart de siècle, la façon même de présenter les choses évolue. Alors, en effet, là, nous avons une nouvelle formule éditoriale, un petit peu, pas trop quand même, hein, parce qu'il faut de la continuité dans ces choses-là, justement pour fidéliser les gens. Donc, il y a quelques évolutions éditoriales. Le format est un petit peu plus pratique, un peu plus ramassé. Nous avons constaté aussi que aujourd'hui les gens lisent un peu moins. Hein, les gens lisent moins, vous savez bien ça. Ils veulent aussi des articles un peu plus courts, qui vont un peu plus directement au but. Ceci nous a amené à supprimer la partie dite thématique. Mais on l'a récupéré un peu parce qu'il y a une sorte d'encyclopédie qui reprend les principaux thèmes de l'année, mais avec des articles qui ont été, dans certains cas, enrichis par rapport aux années précédentes, ce qui est une façon aussi de retrouver tout de même un petit peu les thèmes, voyez-vous. Mais l'ensemble est maniable. Il y a donc mon texte introductif qui est une sorte de panorama de l'état du monde. On va en parler après. Et il y a donc une longue partie qui couvre à peu près tous les sujets qui sont importants au moment de la publication. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a des cartes, annexes statistiques, etc., de sorte que cela fait un ouvrage également maniable et pratique.
À l'heure de la mondialisation, c'est quand même une division géographique par grande aire. Donc, ça, on s'y retrouve très facilement. Il y a les questions mondiales et puis Moyen-Orient, Amérique, Asie-Pacifique, etc.
Voilà.
Donc, c'est un usage très pratique pour le lecteur. Ça fait presque 20 ans que le bloc soviétique s'est effondré et que c'est la fin de la guerre froide. Ça fait à peu près l'espace d'une génération que nous vivons dans un monde multipolaire. Avec le recul, quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle situation ?
Alors tout d'abord, vous venez de dire...
Un petit peu général.
Oui, bien sûr, mais c'est une question générale, mais importante. D'abord, vous venez d'employer l'expression « multipolaire ». Rien que ça, c'est quelque chose qui se discute.
Tout à fait.
Car après la chute de l'Union soviétique, donc je rappelle pour nos auditeurs qu'à la fin de l'année 89, en fait à Noël, exactement d'ailleurs à Noël 89, on a la fin de l'effondrement de ce qu'on appelait l'Empire soviétique extérieur. Tout cela s'est déroulé dans le dernier trimestre de l'année 1989 et ça s'est achevé le jour même de Noël d'ailleurs par l'élimination physique de Ceausescu en Roumanie. Et deux ans après, quasiment jour pour jour, c'est tout à fait étonnant, donc la fin de l'année 91, la chute de l'Union soviétique, la dissolution de l'Union soviétique. C'est un phénomène, une transition tout à fait extraordinaire à l'échelle historique.
C'est une grande rupture.
Et je vous avoue d'ailleurs qu'en ce qui me concerne, je suis heureux d'avoir vécu une période de temps aussi riche. J'ai un petit peu le sentiment qu'avait, j'avais déjà d'ailleurs en 89, un petit peu le sentiment qu'avait, qu'exprimait si brillamment Chateaubriand à la fin des Mémoires d'Outre-Tombe, quand il dit, étant donné son âge, qu'il a vécu finalement deux mondes complètement différents, le avant 1789 et le après 1789. Et je crois que, indépendamment du fait que nous sommes exactement deux siècles après, 1789-1989, je suis absolument convaincu que d'un point de vue historique, nos descendants parleront de cette année 1989, comme nous parlons aujourd'hui...
1989.
Oui, 1989, nos descendants en parleront comme nous parlons nous-mêmes de 1789. C'est tout à fait... Donc, le fait d'avoir vécu très, très complètement la situation antérieure et déjà pas mal la situation postérieure, c'est intéressant. Alors, après la chute de l'Union soviétique, pouvait-on parler de monde multipolaire ?
Pas tout à fait. Vous allez nous expliquer justement comment vous en êtes là pour le Ramsès 2008 à bien préciser et présenter ce caractère particulier.
C'est exactement ça. Alors, pendant longtemps, n'est-ce pas, en particulier en France, on a aimé parler de monde multipolaire parce que ça flattait un peu notre idéologie finalement, où les Français ont toujours voulu s'affirmer comme un pôle sur la planète, soit directement, soit à travers l'Europe. Mais enfin, dans la réalité, après la chute de l'Union soviétique, il y a eu bel et bien pendant longtemps un seul pôle. C'est-à-dire qu'on a vécu non pas un monde multipolaire, mais un monde monopolaire, c'est-à-dire une ère de domination marquée par la suprématie ou par l'hégémonie, on peut discuter sur le choix des termes, des États-Unis. Parler de monde multipolaire, par conséquent, que de façon imagée. Alors bien sûr, le fait que le monde, pendant un certain nombre d'années après la chute de l'Union soviétique, ait été ainsi dominé par les États-Unis, n'impliquait pas que les États-Unis étaient omnipotents, parce qu'il ne faut pas confondre non plus la monopolarité ou l'hégémonie avec une sorte d'omnipotence qui permettrait à tel ou tel État d'exercer sa volonté partout dans le monde. Bien sûr que non. D'ailleurs, l'hégémonie n'a jamais signifié cela. Mais enfin, disons, l'hégémonie ou la...
Mais il y avait au moins un modèle, peut-être.
Sinon, un modèle. Alors, il y avait effectivement un modèle dans la mesure où, pendant assez longtemps, la référence idéologique américaine a semblé l'emporter sur toutes les autres. Mais également, les États-Unis étaient en tout cas le seul pays à pouvoir marquer leur volonté d'une manière essentielle n'importe quel coin de la planète, à partir du moment où ils s'y intéressaient, ce qui n'était pas forcément le cas de tout. Alors, ceci a duré en tout cas la décennie 90, c'est-à-dire la décennie postérieure à la chute de l'Union soviétique. Incidemment, d'ailleurs, ceci a coïncidé largement en ce qui concerne les États-Unis avec l'ère Clinton. Clinton a eu beaucoup de chance quand on y regarde. Il a eu beaucoup de chance parce que finalement, il a bénéficié de cette situation. Et il a également bénéficié d'une situation économique tout à fait exceptionnelle, puisque sur le plan économique, il y a une sorte d'anticyclone économique. C'est une image, bien entendu, qui s'est installée sur le ciel américain. Donc, l'ère Clinton apparaît rétrospectivement d'autant plus favorable.
Mais sur le plan international, qu'est-ce qu'il a laissé ?
Sur le plan international, ce qu'il a laissé, naturellement, on peut en discuter, mais sur le moment, il était perçu comme... Il était extrêmement bien perçu, puisque la puissance était dominante, il n'y avait plus de gros soucis, voyez-vous. Et l'image des États-Unis était dominante, et lui-même était un puissant communicateur. Alors évidemment, les choses se sont gâtées à partir du début du présent siècle et du présent millénaire. Ce que nous voyons, et ça c'est un petit peu l'idée centrale de mon introduction de cette année, de mes perspectives de cette année au début de ce Ramsès 2008, ce que nous voyons, c'est le retour effectif maintenant de la multipolarité. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons assisté à l'affaiblissement américain, un affaiblissement dû d'ailleurs en grande partie aux erreurs commises par les États-Unis eux-mêmes, on pourra y revenir.
Oui, on y reviendra.
Et puis de l'autre, nous avons assisté à la montée ou à la continuation de la montée d'autres États. Alors il y a la Chine qui ne cesse de monter depuis 1978 et puis le retour de la Russie.
On va revenir sur ces nouvelles puissances émergentes que vous avez déjà signalées dans les différents rapports. Vous qualifiez aussi ce monde multipolaire d'hétérogène et ce caractère hétérogène de la multipolarité, ça fait un peu. Est-ce qu'il peut justement, pourrait-il casser les, et c'est votre hypothèse, enfin, ce que j'en ai compris, pourrait-il casser l'élan de la mondialisation, du processus de la mondialisation?
Là, il y a plusieurs choses.
Qu'est-ce qui pourrait en fait arrêter la mondialisation aujourd'hui?
Oui, là, il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez vous-même hésité sur l'emploi des mots, parce qu'il est vrai que même sur ces sujets, on est amené à utiliser une terminologie qui peut paraître un petit peu barbare. Et peut-être faut-il d'abord s'arrêter un instant sur cette terminologie. Alors, effectivement, multipolaire, c'est déjà un terme un peu barbare. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centres de puissance, et donc il n'y a plus qu'un seul. Hétérogène, ça veut dire quelque chose de très précis. L'hétérogénéité, c'est par rapport à l'idéologie. Il faut se rappeler qu'au lendemain de la chute de l'Union soviétique, la chute du communisme, il y a eu cet engouement bien exprimé par le thème de la fin de l'histoire de Fukuyama, empruntant lui-même l'idée à Hegel, etc. L'idée que la démocratie et l'économie de marché allaient l'emporter partout et que, donc, sur le plan idéologique, on allait avoir un monde bel et bien homogène. Et ça, ce rêve-là, qui était d'une grande naïveté, franchement, je n'y ai personnellement jamais cru un seul instant. Bon. Mais enfin, c'était une idéologie qui a tout de même très largement dominé au début des années 90, y compris en France, du reste. Et tout ça s'est évanoui. Hein. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est bel et bien l'hétérogénéité. Mais hétérogénéité, c'est par rapport à ça. Et ne pas confondre avec la diversité. Par exemple, j'insiste beaucoup s'agissant de l'Union européenne, que nous sommes là dans le domaine beaucoup plus de la diversité que de l'hétérogénéité.
C'est la particularité de l'Union européenne.
Voilà, mais il ne faut pas confondre les deux, voyez-vous. Donc, monde multipolaire et hétérogène. Alors, par ailleurs, il y a l'idée de mondialisation. L'idée de mondialisation, vulgairement, est très très liée à l'idée de la fin de l'histoire, c'est-à-dire à l'idée de l'emprise, de la domination partout dans le monde, de la démocratie et de l'économie de marché, au point que sur la planète, il n'y aurait plus qu'une seule ère, AIRE, où s'exercerait aussi bien le champ politique que le champ économique.
Grand marché. Mondial.
Alors, on voit bien que là aussi, les choses sont plus compliquées. Ce qui est vrai, c'est qu'aussi bien sur le plan des transports, par exemple, que sur le plan de la communication en général, la planète s'est considérablement rétrécie. C'est une platitude, c'est une banalité et qui, elle, n'a pas changé. Encore que techniquement, il soit tout à fait possible de couper et d'isoler certaines parties du monde si on le souhaite. Mais cette réalité-là, malgré tout, demeure. En revanche, ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que l'hétérogénéité, précisément, fait que ce fameux grand marché s'étendant sur toute la planète peut parfaitement se casser. Il peut parfaitement se casser. La Chine, par exemple, n'est pas un marché ouvert à tout vent. La transparence, vous savez, le mot transparence qui a tellement été employé par tout le monde, la transparence, on voit combien elle est limitée. Elle est limitée d'ailleurs chez chacun d'entre nous, qu'on fait les incidents bancaires, les incidents dans la sphère financière, qui n'ont jamais cessé de se multiplier, alors même qu'on croyait être parfaitement renseigné sur tout. La crise, déjà à la fin du siècle dernier, en 1996, il y avait une grande crise économique qui avait éclaté en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, et qui avait pris tout le monde de court. Aujourd'hui, et là quand je dis aujourd'hui, ces derniers mois, le monde a été très frappé par le surgissement de ce qu'on appelle les fonds souverains, c'est-à-dire des pays qui sont souvent des pays peu ou pas du tout démocrates, qui accumulent des réserves monétaires et qui utilisent ces réserves monétaires pour acquérir des actifs financiers dans les pays économie de marché. Donc, il y a beaucoup de phénomènes qui ne correspondent pas exactement à l'image un peu idyllique de cette mondialisation libérale et qui pourrait provoquer donc des chocs en retour et éventuellement une interruption de la mondialisation. Alors, je ne dis pas que ça va se produire, je ne dis pas du tout que ça va se produire, je dis simplement que ça pourrait se produire, et j'ajouterai juste pour compléter ce point, qu'il y a tout de même des précédents historiques, parce que même si l'actuelle mondialisation repose sur des forces technologiques sans précédent dans l'histoire de l'humanité, il y a quand même eu au début du XXe siècle une véritable mondialisation. Et d'ailleurs, qui s'est, malgré le choc de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, comme on disait avant la Seconde Guerre mondiale, malgré ce choc, cette mondialisation s'est poursuivie très largement dans l'entre-deux-guerres. Par exemple, un homme comme Jean Monnet, on oublie trop souvent que la fortune de sa famille s'était faite largement en vendant du cognac en Chine. Bon, pour les gens de ma génération, moi je suis né pendant la guerre, en 1943, pour les gens de ma génération, pendant des décennies, la Chine était un monde totalement fermé et inaccessible, n'est-ce pas? Donc, moi je me souviens quand j'étais jeune et même encore la quarantaine largement dépassée, ayant déjà plusieurs fois visité la Chine populaire, l'idée qu'un jour on pourrait se retourner en Chine comme l'avait fait Jean Monnet avant ma naissance, c'était une idée qui paraissait absolument invraisemblable, voyez-vous? Donc, il y a eu une mondialisation qui a été méchamment interrompue. Et donc, il ne s'agit pas d'être pessimiste ou optimiste, mais je crois que la sagesse, c'est aussi de toujours se souvenir que les grands mouvements de l'histoire peuvent se renverser et s'interrompre, et même se renverser et s'inverser, et emporter beaucoup de monde sur leur passage.
Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont en perte de vitesse du fait de leurs erreurs stratégiques au Moyen-Orient? Tout à l'heure, vous avez expliqué que ce n'est pas la superpuissance qu'ils ont été, par exemple, dans les années 80-90. Aujourd'hui, les États-Unis semblent en perte de vitesse. Est-ce pour des raisons stratégiques ou pas? Ou pas seulement? Enfin, je vous laisse mieux préciser que moi ce point.
Il y a plusieurs aspects, bien sûr. D'abord, aucune puissance, alors ça c'est une vérité universelle, dans quelque domaine que ce soit, aucune puissance n'est éternelle. Je veux dire que, de même que tout empire périra, titre d'un beau livre de nos confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, décédé il y a quelques années, qui était Jean-Baptiste Durosel, un très grand historien
des relations internationales
contemporaines. De même donc, que tout empire périra, de même toute puissance, quelle qu'elle soit, est destinée à reculer, à s'effondrer. Et ceci vaut en particulier pour les États-Unis. Autre remarque aussi, c'est que je faisais d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'une puissance, si importante soit-elle à un moment donné, n'est jamais totale. Il faut voir, moi j'ai découvert ça aussi en étudiant un petit peu l'histoire de la Russie, par exemple, et particulièrement l'histoire de Staline, l'histoire du stalinisme, même à l'époque la pire du totalitarisme communiste et du totalitarisme stalinien, Staline ne contrôlait pas, loin de là, l'ensemble du territoire russe. Il était obligé d'utiliser des proxys, c'est-à-dire des gens qui, certes, qu'il nommait les secrétaires généraux des partis communistes, des différents sujets de la fédération, de l'Union soviétique. Ces gens-là, c'est des espèces de satrapes, mais qui eux-mêmes, si vous voulez, exerçaient l'autorité sur place. Alors certes, Staline avait les remplacer, mais il n'exerçait pas un contrôle total et direct, loin de là. Donc ça, c'est une vérité universelle. Alors, s'ajoute à ces considérations générales les erreurs qui ont été commises par les États-Unis.
Parce que vous êtes assez critique quand même dans vos perspectives là sur les États-Unis, sur la politique étrangère américaine depuis la guerre d'Irak.
J'aime beaucoup les États-Unis, oui, je les connais bien, j'y ai fait un doctorat, j'y ai énormément d'amis, je n'ai cessé de les fréquenter. Je crois qu'il faut être lucide et critique. Alors, d'abord, il faut bien voir que les États-Unis ont une caractéristique qui fait à la fois leur force et leur faiblesse. C'est très souvent, d'ailleurs, la force et la faiblesse sont les deux faces de la même pièce. On a les faiblesses de ses forces et réciproquement. Des caractéristiques importantes des États-Unis, c'est qu'ils sont convaincus. D'abord, ils sont très nombrilistes. C'est-à-dire qu'ils ignorent très largement le monde et sont convaincus que le meilleur service qu'elles puissent rendre au monde, c'est de le faire à leur image. Justement, l'idée d'hétérogénéité et même d'ailleurs à certains égards de diversité, ce qui est assez curieux quand on pense à la notion de melting pot, leur est largement étrangère. Par conséquent, ils ignorent le monde. Ils ignorent très largement le monde. Ils ont donc une approche générale des relations internationales qui est finalement extrêmement idéologique.
Est-ce que vous pensez que ça a toujours été le cas? Est-ce que, il y a 20 ans, c'était aussi fort ou ce serait quelque chose qui se serait accentué?
Alors, premièrement, ça a toujours été le cas.
Plus ou moins.
plutôt plus que moins. Mais la différence, bien entendu, c'est qu'en même temps, les Américains, et c'est ça aussi qui fait partie de leur charme, c'est qu'ils sont à la fois extrêmement... L'idéologie est très importante. On a parlé de la fin des idéologies, c'est idiot, n'est-ce pas, l'idéologie, d'ailleurs, nous baignons toujours dans les ambiances idéologiques. Mais en même temps, les Américains ont toujours été réalistes et pragmatiques. C'est-à-dire qu'il y a le mélange des deux. Alors, il est évident qu'à l'époque de la guerre froide, leur idéalisme était se heurter à la réalité du fait soviétique et à la réalité des armements soviétiques et des risques qui s'en suivaient. Par conséquent, ils étaient ramenés à la réalité, comme peut l'être n'importe lequel d'entre nous quand il fait face à un danger, n'est-ce pas ? Tandis qu'après la chute de l'Union soviétique, pendant un certain nombre d'années, ce contrepoids a disparu. Par conséquent, ils se sont retrouvés seuls à leur propre fantasme, à leur propre tendance, comme d'ailleurs tous les gens qui sont trop sujets à l'idéologie. Vous savez, on parle des États-Unis, mais je pourrais vous citer des noms de nombreuses personnalités, même en France, qui sont tombées dans le même travers. Ceci a marché pendant un certain nombre d'années. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais des années Clinton, parce que ces années Clinton, en gros, correspondent à ça. Et je suis convaincu, pour ma part, qu'une des raisons pour lesquelles Clinton laisse cette image essentiellement favorable, je ne parle pas actuellement de la campagne électorale actuelle, c'est un autre sujet, c'est à cause de ça. Et puis, sur ce, ils ont... Bush a été élu dans les conditions que l'on sait, que Bush, qui est un homme alors, idéologiquement extrême, néo-conservateur extrême, se trouve donc élu d'ailleurs dans des conditions assez particulières à la fin de l'an 2000. Et très rapidement, on se retrouve avec le choc du 11 septembre. Et je crois que la manière dont les Américains ont réagi au 11 septembre, la manière dont ils ont traité ou n'ont pas traité, comme la question israélo-palestinienne, certains problèmes, la façon dont ils se sont lancés à corps perdu au nom, là aussi, d'une vision complètement idéologique des choses dans la guerre contre l'Irak en 2003, avec la conviction naïve que le simple fait de renverser Saddam Hussein permettrait d'instaurer rapidement une démocratie libérale, le mythe toujours de la fin de l'histoire en Irak, et qu'il en résulterait une sorte d'exemple vertueux qui bénéficierait à l'ensemble de la région. Tout cela a constitué une série d'erreurs que nous payons évidemment très cher, mais il n'y a pas que ça. Vous savez, je prends un autre exemple, toujours d'ailleurs de l'ordre du Moyen-Orient au sens large, puisque le Moyen-Orient, encore une fois au sens large, c'est un petit peu l'épicentre aujourd'hui de toutes les difficultés. Mais si vous regardez la situation au Pakistan, on voit bien là aussi la genèse d'une grande partie des mots MAUX contemporains. Dans les années 80, en 1980, l'Union soviétique se lance dans cette aventure extrêmement périlleuse qui consiste à envahir l'Afghanistan. Les États-Unis, plus ou moins soutenus par leurs alliés, enfin c'est essentiellement les États-Unis, soutiennent à fond, à partir du Pakistan et à partir de des provinces occidentales du Pakistan, soutiennent les fameux Moudjahidines qui sont la principale force, n'est-ce pas, qui lutte contre l'envahisseur soviétique. Et c'est de là que naissent tous les mouvements islamistes ultérieurs, parce que une fois l'action terminée, c'est-à-dire après la défaite soviétique, les Américains, qu'est-ce qu'ils font ? Les Américains se désintéressent du jour au lendemain à la région, se retirent non seulement de l'Afghanistan, mais du Pakistan, et laissent derrière eux une situation qui exploite justement ces forces islamistes, et ça a donné une grande partie de ce qui a suivi. Donc vous voyez, il y a une série d'erreurs stratégiques qu'on peut analyser ainsi en grand détail, et qui sont largement à l'origine de la situation présente.
Canal Académie.
Alors, on va revenir un petit peu sur l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est-elle tributaire de la puissance américaine ? Est-ce qu'il y a un rééquilibrage en ce moment entre l'Union européenne et les États-Unis ? Où passent, disons, les lignes de dépendance entre les deux ? entre ces deux pôles quand même. C'est, on est...
Mais oui. D'abord, vous dites les deux pôles, ça c'est un point que je discute. Est-ce que l'Union européenne est vraiment un pôle? Disons que ça peut se discuter. On peut à certains égards dire oui, à certains égards dire non. Alors, n'entrons pas tout de suite dans cette discussion-là. L'Union européenne, d'abord, quelles que soient ses faiblesses, et je vais y revenir dans un instant, il faut tout de même la saluer, parce que ce que nous avons fait, l'œuvre de la construction européenne, est immense. Nous avons, l'an dernier, célébré, commémoré le 50e anniversaire du traité de Rome. Il faut voir que, historiquement, là encore, en 50 ans, c'est évidemment long à l'échelle d'une vie humaine, mais à l'échelle historique, c'est très peu de choses, et l'œuvre accomplie en 50 ans est tout à fait extraordinaire. Et il faut bien voir que les immenses désordres consécutifs à la chute du dernier empire, je veux dire l'empire russe, parce qu'il faut voir que la chute de l'Union soviétique, on ne le rappellera jamais assez, c'est deux événements et non pas un. C'est la chute du communisme et c'est la chute de l'Empire russe. Et c'était donc le dernier empire, tous les autres s'étant effondrés à partir de la Première Guerre mondiale. L'Empire austro-hongrois, etc., l'Empire ottoman. Et bien, une chute d'empire, ça entraîne d'immenses conséquences. S'il n'y avait pas eu l'Union européenne, je pense qu'il y aurait eu une guerre générale en Europe. Et l'Union européenne, aussi imparfaite fut-elle, a très largement permis d'aborder le mieux possible les conséquences de cet immense choc géopolitique.
Et a-t-elle les chances aujourd'hui de sortir
oui,
un
oui.
peu
non,
plus
Non, non, mais je ne
perds
pas de vue la question. Mais c'est quand même déjà bien de se rendre compte de ça. Et sur le plan économique, évidemment, une immense zone de prospérité. Cela dit, et là je suis toujours sur la question de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, cela dit, l'Union européenne a un vice de fabrication. Ce vice de fabrication, qui est d'ailleurs largement dû à la France elle-même, à cause du rejet de la Communauté européenne de défense en 1954, ce vice de fabrication, c'est que elle a été conçue, cette Union européenne, qu'on appelait communauté au début, elle a été conçue essentiellement comme une construction économique, et même d'ailleurs au départ sur des sujets très particuliers, comme l'énergie, et pas comme une construction politique. Et sur le plan politique et sur le plan de la défense, de la sécurité et de la défense, c'est dès le départ l'Alliance Atlantique qui a eu le dessus. Et on est, malgré tous les changements qui se sont produits au cours des décennies, on n'est jamais sorti de cette contradiction-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, l'organisation occidentale, je veux dire les États-Unis d'un côté et les Européens de l'autre, enfin l'Union européenne si vous voulez, cette organisation reste, en ce qui concerne les questions de défense et de sécurité, très largement dominées par la relation avec les États-Unis. Et alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que du point de vue américain, si vous êtes américain, du point de vue américain, vous êtes d'autant plus attentif à l'Alliance Atlantique que c'est le seul moyen qu'ils ont, eux, les Américains, pour exercer leur contrôle, si vous voulez, au sens large du terme, de ce qui se passe en Europe. C'est pour ça qu'ils sont tellement attentifs à l'élargissement de l'OTAN, etc. Et maintenant, si vous regardez les choses, non pas du point de vue européen en général, mais du point de vue des nouveaux membres en Europe, c'est-à-dire des anciens pays communistes qui ont intégré l'Europe à partir de la chute de l'Union, après la chute de l'Union soviétique, vous voyez qu'eux-mêmes sont d'autant plus enclins à traiter, en ce qui concerne les questions de sécurité avec les États-Unis, qu'ils ont tout de même des souvenirs extrêmement cuisants. Moi, je me souviendrai toujours, au début des années 90, une très haute personnalité tchèque qui venait me voir dans mon bureau, et à qui je faisais des commentaires sur la défense européenne, etc., etc., qui m'a quand même rappelé méchamment Munich et la façon dont les Européens les avaient laissés tomber dans l'entre-deux-guerres. Et si vous êtes polonais, si vous êtes tchèque, si vous êtes hongrois, sans parler des lettons et autres baltes, eh bien, vous préférez sans doute considérer que le principal partenaire pour les questions de défense, c'est les États-Unis plutôt que la France, voyez-vous. Donc, il faut tenir compte de cet ensemble de réalités qui, je crois, va perdurer encore pendant un certain temps.
Vous parliez de la Russie tout à l'heure et dans vos perspectives, vous insistez sur, dans vos perspectives 2008, dans le rapport Ramsès, vous présentez la Russie comme la continuité de l'Empire dont vous parliez tout à l'heure un petit peu par cette idée de retour en avant de la Russie sur la scène internationale. Vous parlez d'un retour,
retour
en Europe, dans le monde.
Oui, parce qu'il faut bien voir que les années 90... Beaucoup d'Occidentaux éprouvent une certaine sympathie pour rétrospective, et même d'ailleurs à l'époque pour Yeltsin, qui était avec ses beaux cheveux blancs et qui était sous la moitié du temps, etc. Bon. Mais en réalité, quand vous êtes russe, moi je vais énormément en Russie, quand vous êtes russe, ces années 90, dans l'ensemble, à part une toute petite minorité de gens, c'est des souvenirs catastrophiques. C'est des souvenirs d'un chaos indescriptible, de la décomposition du pays, de l'humiliation du pays, de l'effondrement de toutes ces structures et de l'émergence d'une catégorie de rapaces qui s'est traduit par l'enrichissement frénétique d'un certain nombre et d'un appauvrissement de la grande majorité.
Alors, est-ce que maintenant, il y a les conditions nécessaires pour l'émergence d'une situation plus stable et pour un pôle émergent, enfin?
Alors, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, avec l'élection de Poutine, la première élection de Poutine, c'est-à-dire en l'an 2000, on a eu l'arrivée d'un dirigeant jeune, en pleine santé physique et mentale, qui est un homme d'ailleurs supérieurement intelligent, Vladimir Poutine, et qui a rétabli l'ordre. Là, il a rétabli l'ordre, et naturellement, dans des conditions qui ne sont pas celles dont rêvaient les Occidentaux. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec un totalitarisme. Hein. Il faut le régime russe aujourd'hui, la meilleure façon de le décrire, c'est-à-dire c'est un régime autoritaire, mais, voilà. Mais certainement pas totalitaire. Et d'autre part, Poutine a été aidé, objectivement, par la remontée des prix du pétrole. C'est parce qu'il faut bien voir qu'en l'an 2000, c'est-à-dire l'année de son élection, le pétrole était en dessous de 15 dollars le baril. Alors, pour beaucoup de nos éditeurs, ce chiffre de 15 dollars le baril ne dira peut-être pas grand-chose, mais ce qui est aujourd'hui, il frôle de temps en temps les 100 dollars. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'à 15 dollars, en dessous de 15 dollars le baril, la Russie ne pouvait pas, était dans l'impossibilité totale de boucler son budget, même le budget au sens le plus restreint du terme. Alors, je crois que cette reprise en main, cette reconstruction de l'État, elle a été très largement aussi facilitée par la remontée des prix du pétrole. Je pense pour autant que ce serait très injuste de dire que la reconstruction, le redémarrage de la Russie est la conséquence du seul prix du pétrole. C'est pas quand on voyage pas seulement à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais qu'on voyage à l'intérieur du pays, on voit qu'il y a un progrès économique énorme qui est absolument partout. Donc il y a vraiment une remontée de la Russie. Et la Russie, en effet, aujourd'hui, a retrouvé un poids international. Mais entendons-nous bien, parce que ce poids international retrouvé, pour autant, il n'a rien à voir avec celui de l'Union soviétique.
Alors, la Chine et la Russie peuvent-elles jouer ensemble, disons, contre les États-Unis ou contre l'Union européenne ?
D'abord, je crois que aussi bien la Chine que la Russie sont pour l'instant essentiellement préoccupés de leur propre développement. C'est-à-dire que, alors on n'a pas beaucoup parlé de la Chine, et la Chine effectivement en est maintenant à sa 30e année, puisque Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir en 1978, ça fait donc 30 ans de développement continu, avec un succès absolument incroyable. Là aussi, n'est-ce pas, nous assistons depuis 30 ans à un phénomène qui est absolument sans précédent sur le plan historique, avec un véritable phénomène de puissance. Mais à part la question de Taïwan, qui est une question extrêmement chatouilleuse pour les Chinois sont extrêmement prudents. C'est pas, et d'une certaine manière, les Russes aussi. C'est-à-dire que leur obsession, c'est de préserver les conditions favorables pour la poursuite de leur développement économique. On ne peut pas faire du développement économique sur la durée si on a à mener de multiples guerres ici ou là. Donc le but des Chinois et des Russes, il n'est sûrement pas de faire la guerre à qui que ce soit pour l'instant. D'autre part, ils n'ont rien de particulièrement anti-occidental. Ils veulent participer au développement de l'économie mondiale et ils veulent avoir leur part, mais ils n'ont aucune obsession particulière anti-occidentale. N'oublions pas non plus qu'ils ont eux-mêmes leur propre rivalité entre eux. Quand vous êtes russe, vous voyez que vous avez un immense pays, n'oublions pas 17 millions de kilomètres carrés, c'est quand même pas rien, 17 millions de kilomètres carrés et 30 millions ou moins d'habitants à l'est de l'Oural, c'est-à-dire sur 10 millions ou même sur 11 ou 12 millions de kilomètres carrés, il y a moins de 30 millions d'habitants. Et à côté de ça, vous avez 1,3 milliard d'habitants qui se pressent à vos portes. Tout ça, voyez-vous, est extrêmement subtil. L'idée qu'il pourrait y avoir une alliance russo-chinoise contre les Occidentaux n'a, à mon avis, strictement aucun sens.
Vous avez une idée, disons, d'un ordre mondial calme ?
Je crois
quels seraient les types de conflits de demain ?
Je ne sais pas s'il existe une tranche de l'histoire des hommes qu'on pourrait qualifier de calme. Le fameux siècle de Périclès lui-même n'a duré qu'un tout petit nombre de décennies. Par conséquent, je crois que, et d'ailleurs, c'est une des choses dont on ne se rend peut-être pas suffisamment compte chez nous, c'est que justement, par exemple en France, typiquement, ou en Europe de l'Ouest, c'est que d'avoir eu déjà 60 années sans guerre chez nous, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Unique. Donc on a énormément de mal à se rendre compte de ce que c'est que la réalité historique à l'extérieur.
Alors, quels pourraient être les types de conflits à venir possibles ? Il peut y avoir des conflits sur l'eau,
Oui, mais...
Mais par exemple, nous, qu'est-ce qui pourrait toucher ou fragiliser considérablement
les conflits, bon, il faudrait faire un tour de la planète, on n'a sans doute pas le temps maintenant de le faire, mais je pense que les conflits de type classique, c'est-à-dire des grandes guerres comparables à la Première ou la Seconde Guerre mondiale, je crois que ce n'est pas dans l'horizon vraisemblable des prochaines années ou décennies. Certaines guerres interétatiques sont possibles encore, par exemple... entre l'Inde et le Pakistan, même si ce n'est pas forcément le plus probable. Guerre autour de Taïwan, c'est très peu vraisemblable, mais tout cela est possible. Bon, des guerres extrêmement meurtrières, il y en a tous les jours
en Afrique,
par exemple. Mais pour ce qui nous concerne directement, je pense que les hypothèses les plus dangereuses, c'est celles qui tournent plutôt à la décomposition des États et à l'absence de l'autorité des États. Par exemple, ce sont des groupes humains organisés utilisant des armes de destruction massive. Si vous voulez, en un mot, c'est le terrorisme international, c'est-à-dire donc des groupes, ce que j'appelle les unités politiques qui ne sont pas des États, qui utilisent, par exemple, des armes nucléaires ou ce genre de choses. Oui, imaginez une explosion nucléaire à Paris ou même un événement du type 11 septembre à Paris. Imaginez, nous sommes l'endroit où je vous parle, je vois le musée du Louvre. Imaginez la moitié du musée du Louvre détruite par une bombe avec 1500 ou 2000 morts. Ce genre de situation qui me paraît aujourd'hui les plus préoccupantes. Et c'est pourquoi, c'est un exemple parmi d'autres. J'en déduis pour ma part, et ça c'est un point très important, bien que idéologiquement nous préférerions n'avoir à traiter qu'avec des puissances comparables aux nôtres du point de vue idéologique, j'en reviens sur la question de l'homogénéité et de l'hétérogénéité, en pratique, dans le monde tel qu'il est, il faut néanmoins traiter avec des États même différents pour limiter le risque de ce genre de calamité, voyez-vous, parce que on n'a pas parlé de l'Iran, par exemple, mais je pense qu'une des tragédies, j'emploie bien le mot, n'est-ce pas, immédiate, c'est qu'on n'ait pas réussi à établir un contact avec l'Iran. Et depuis 1979, c'est-à-dire depuis l'arrivée du régime roméniste. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, je crois au retour des États. Je crois que les États, on a parlé beaucoup de disparition des États. Je crois que les États, c'est aujourd'hui extrêmement important. Et la meilleure façon d'éviter des calamités qui sont d'ailleurs
Y compris contre la menace terroriste.
Bien entendu, parce que la menace terroriste, d'où vient-elle ? Vous avez des terrorismes dits d'État. On a eu ça, par exemple, dans les années 80. Il y a eu des attentats à Paris qui étaient commandités par le régime iranien de l'époque. Bon, ce genre de choses, pour l'instant, a disparu.
Voilà.
Donc, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas revenir, mais justement, il faut œuvrer pour que ça ne revienne pas. Les formes de terrorisme aujourd'hui qui nous agressent, ce sont des formes de terrorisme non étatiques. Mais les groupes terroristes, il faut bien qu'ils opèrent à partir de certaines bases. Les territoires, ça existe toujours, ils sont bien quelque part.
Ils ont besoin de logistique.
Les besoins de logistique. Puis, vous savez, heureusement, fabriquer des armes, etc., tout cela laisse des traces. Par conséquent, il faut coopérer, là aussi, avec les États, entre États, pour éviter ce genre de malheur. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, la priorité absolue, c'est de... En fait, la priorité de la lutte contre le terrorisme, en général, passe par la coopération entre États, et puis aussi par le traitement fondamental des problèmes. Vous comprenez, je crois que tant qu'on n'aura pas approché autrement le problème du Moyen-Orient, et en particulier la question israélo-palestinienne, je pense que le vivier du terrorisme international se renouvellera, parce que ces gens qui vont, ces bombes volantes, les attentats suicides, etc., et il faut bien comprendre aussi que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui sacrifient leur vie d'une manière qui nous paraît étonnante, mais dont il faut comprendre la psychologie, il faut comprendre les mécanismes de ces choses-là, si on veut éviter que la machine ne se réalimente constamment.
Thierry de Montbrial, la situation internationale est-elle selon vous particulièrement instable au Moyen-Orient du fait de l'échec des négociations relatives à la question palestinienne ?
Je crois que la tragédie, c'est que personne n'a cherché à résoudre la question. Le problème israélo-palestinien, après la chute du mur, c'est-à-dire à partir de 1989-91, l'Union soviétique, les États-Unis ont considéré que le problème n'existait plus. Ils ont considéré qu'il suffisait de vivre avec le Moyen-Orient tel qu'il était. Le drame, c'est que les États-Unis, qui sont la puissance dominante, en tout cas pour ce type de problème, n'ont jamais exercé leur responsabilité. Donc, je crois qu'il appartient, et là je suis tout à fait catégorique dans mon jugement, il appartient aux États-Unis, c'est la responsabilité historique des États-Unis de traiter la question israélo-palestinienne. Ce que je constate, c'est que c'est toujours au début de la dernière année du second mandat, de leur second mandat, que les présidents des États-Unis s'intéressent à la question. Et Bush est en train de faire la même chose de ce point de vue-là que Clinton. Alors, je ne dis pas que la solution du problème israélo-palestinien réglera tout, mais comme disent les mathématiciens, c'est une condition certainement pas suffisante, mais en tout cas nécessaire. Et d'autre part, je crois qu'il faut sortir de l'idée que les Arabes, que le monde arabe en particulier, est condamné au sous-développement. C'est absolument pas vrai. Quand vous allez, par exemple, en Arabie Saoudite ou dans les Émirats, vous êtes frappé par le développement économique. Un pays comme l'Irak, d'ailleurs, malheureusement, a très mal tourné parce que Saddam Hussein était ce qu'il était. Mais un pays comme l'Irak avait l'eau, il a toujours, sauf que l'Irak aujourd'hui est divisé, etc. Mais il y a l'eau, le pétrole et des hommes d'une grande qualité, très bien formés. Tu vois, je crois absolument pas que le monde arabe soit condamné à l'échec et au sous-développement. Ce qui est vrai cependant, c'est que la reconstruction de tout ça, l'inversion de toutes ces tendances, prendra du temps. Mais évidemment, plus on attend, plus on doit également s'exposer ou s'attendre à avoir des difficultés durables. Je crois que la question israélo-palestinienne est absolument centrale dans toute cette affaire.
Thierry de Montbrial, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de toutes ces questions évoquées. Merci beaucoup.